Rencontre avec nos évêques, avec Monseigneur Jean-Louis Balsa, archevêque d'Albi.
Monseigneur Balsa, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Très heureux de vous retrouver sur RCF cette semaine qui a été marquée par la venue du pape en France. Vous étiez à Marseille le week-end dernier.
Oui, exactement. Donc, effectivement, nous étions 60 évêques de France à être venus accueillir le pape. Lequel pape est venu à Marseille parce qu'il y avait les rencontres méditerranéennes qui consistaient en fait à rassembler des jeunes de toute la Méditerranée, donc du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, et en même temps des évêques aussi de tous ces pays, donc ça allait de l'Espagne au Maroc, en passant par l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, Israël, la Palestine, la Syrie, la Turquie, en remontant un peu plus vers l'Ukraine, la Bulgarie, puis on redescendait la mer Noire et on revenait donc dans cette Méditerranée avec les Roumains, les Grecs, les Italiens, les Serbes, enfin il y avait vraiment, et puis les Français bien sûr, donc, et plus les îles comme Malte, Chypre, ça faisait vraiment un beau rassemblement méditerranéen. Et l'idée du pape, c'est qu'autour de la Méditerranée se jouent beaucoup d'enjeux qui sont à la fois humains et spirituels.
Alors, on a eu quelques retours de Tarnais qui sont partis en bus, qui sont partis en voiture aussi, assister à cette célébration au Vélodrome. Vous, vous avez vécu ce pèlerinage, je ne sais pas si on peut le qualifier de pèlerinage, mais je pense que oui, avec les évêques. Alors, vous avez peut-être vécu des choses différentes.
C'est-à-dire que le matin, on a eu la chance, le privilège aussi, de pouvoir assister à la rencontre du pape avec le président de la République, Emmanuel Macron, et puis aussi le ministre de l'Intérieur. Et du coup, on a pu assister à un bel événement, c'est-à-dire à la fois tous ces hommes politiques qui sont assis devant le Saint-Père et qui écoutent la parole d'un sage. Et ça, c'est pas courant qu'en fait, tous ces grands responsables de l'État et des nations puissent écouter un homme comme ça et ne faire qu'il est pris au sérieux. Donc, effectivement, nous étions 60 évêques, plus les évêques de la Méditerranée, plus des invités, plus les jeunes. Donc, ça faisait un bel amphithéâtre et le pape est arrivé sur son fauteuil roulant. Et après le discours du cardinal Laveline, qu'il a bien accueilli, on a eu donc ce que le pape avait à dire sur la Méditerranée.
Alors, le pape est un chef spirituel, mais c'est aussi un chef d'État. Donc, quand il discute avec un chef d'État, il a aussi ce côté politique à un moment aussi où en France, on se pose des questions sur les migrants et sur des lois donc, de l'accueil des migrants.
Le pape est un chef d'État, mais ça permet effectivement surtout d'avoir un État qui fait que l'Église n'est pas dépendante d'un État particulier. Donc, imaginons qu'elle soit en Italie, en Espagne, en France. Ce qui fut le cas autrefois, puisque l'Église se trouve, enfin, le Vatican se trouvait en Italie, puis même une époque à Avignon. Mais là, ça permet d'avoir un État, c'est d'avoir une vraie liberté, et donc de ne pas être soumis à la pression d'un chef d'État ou d'un État particulier. Donc ça, c'est surtout ça l'intérêt. Et puis de pouvoir parler aux Nations Unies en tant qu'État aussi. Il y a une place pour le Saint-Siège aux Nations Unies. Mais ce qui est plus important, en fait, c'est surtout un chef spirituel. Et d'autant plus important que quand il parle pas au nom des catholiques, puisque le pape ni même un évêque ne représente les catholiques, mais il parle au nom de l'Église, alors là qui est dans sa puissance. Et à ce moment-là, eh bien, l'Église, elle est faite de gens qui sont des citoyens. Et donc, quand c'est pas quelque chose d'à part, et quand il parlait au président de la République, en fait, il parlait comme un homme qui fait partie d'une communauté qui est par ailleurs aussi citoyenne et française. Donc, c'est pas à côté. Mais il se trouve que là aussi, c'est partie prenante, les chrétiens sont partie prenante de la société.
Et en même temps, le pape François est très entendu, même par des personnes qui ne sont pas chrétiennes ni catholiques.
Oui, parce que aujourd'hui, il aborde un certain nombre de sujets au nom de l'Évangile, qui sont des sujets d'actualité, comme tous les papes l'ont déjà toujours fait d'ailleurs. Hein. Mais aujourd'hui, donc, que ce soit les questions de migration, les questions de choc entre les cultures, les questions sur le climat, sur l'écologie, etc., font que aujourd'hui, c'est des questions qui parlent parce que c'est des questions réelles du monde. Et du coup, c'est un rapport avec l'Évangile, puisque en fait, c'est un rapport avec la création. Et la création qui vient de Dieu, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette création et qu'est-ce qu'on en a fait. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui est typiquement lié à l'Évangile. Et c'est normal que le pape en parle.
Et du coup, vous êtes aussi interpellé personnellement en tant qu'évêque aussi pour les actions à mettre en œuvre pour ces questions aussi des migrants. Comment l'Église peut les accueillir ?
D'abord, le pape l'a rappelé, mais enfin, même si le pape l'a pas rappelé, ça va tellement de soi. Les migrants sont des êtres humains. Et du coup, tout être humain a droit, en fait, à être protégé, surtout les plus faibles. En tout cas, c'est ce que Jésus-Christ a voulu vivre et a vécu, et c'est pourquoi d'ailleurs il est venu, il s'est incarné sur cette terre. Et du coup, eh bien, tout être humain a droit d'être protégé. Donc, quelles que soient les raisons pour lesquelles les gens viennent vers nous, en fait, nous, les chrétiens, au nom de Jésus-Christ, on a le devoir de les accueillir. Après, c'est pas simple, parce que on a des problèmes locaux, nationaux, on a des enjeux politiques, et donc c'est vrai que l'accueil de l'étranger reste une difficulté. Parce que ça vient bousculer aussi un ordre établi, d'une certaine manière. Et puis, il faut en avoir les moyens, et puis il faut pouvoir accueillir les gens dignement. Mais dans le fond, ça reste, et le président de la République l'a aussi lui-même rappelé, ça restera toujours une question morale, de conscience à un moment donné. Qu'est-ce que tu as fait de ton frère ? Ça s'était posé déjà dans la Bible au tout début. Qu'as-tu fait de ton frère ? Or, on sait bien que l'un avait tué l'autre, c'est qu'un avait tué Abel. Et Dieu posera toujours la question, qu'as-tu fait de ton frère ? Donc c'est une question qui est pas simple, mais la question de l'étranger se pose. Le premier étranger qui se présente à nous, c'est Jésus-Christ, parce que lui, il vient de Dieu. Donc s'il y a quelqu'un vraiment de différent de nous à la base, c'est quand même lui. Donc on sait dans quelles conditions il a été accueilli ou mal accueilli à la naissance sur cette terre. Ça s'est pas bien passé. Le recensement ne comptait pas normalement avec Dieu qui se fasse homme. Normalement, on comptait les êtres humains venant des êtres humains. Or là, on a quelqu'un qui débarque, si je peux parler ainsi, et qui vient de Dieu. Et du coup, on voit la difficulté de la place qui peut être faite à quelqu'un qui est étrange. Parce qu'un étranger, il est étrange. Et donc, on a vu qu'effectivement, Bethléem, il était rangé dans une mangeoire à l'écart. Voilà, c'est assez compliqué, mais c'est un enjeu fondamental. Qu'as-tu fait de ton frère ?
Et alors, vous avez eu peut-être l'occasion d'échanger aussi avec d'autres évêques, ceux de la Méditerranée que vous citiez, puisque vous avez aussi une attention particulière hein, sur tous les pays qui bordent la Méditerranée. Vous avez, vous nous l'aviez dit lors de votre première venue sur notre antenne, vécu au Maroc et vous y êtes rendu régulièrement, vous parlez couramment l'arabe. Ça veut dire que vous avez pu peut-être percevoir aussi le message du pape dans les yeux aussi des autres évêques et peut-être dans les échanges que vous avez eu avec eux, si vous avez eu le temps d'échanger.
Alors, la majorité des évêques qui étaient là étaient des évêques qui sont touchés par la Méditerranée directement. Nous, le Tarn,
on est un petit peu touchés
par la Méditerranée, et puis on est peut-être du côté atlantique. Mais donc la question se pose différemment sur la côte atlantique que sur les côtes méditerranéennes. Mais bon, c'est vrai que moi-même, ayant vécu sur la côte d'Azur toute ma jeunesse, donc au bord de la Méditerranée, et puis le Maroc, qui est en partie méditerranéen, mais qui a en fait une énorme côte atlantique, en fait, oui, me rend sensible à ça. Le pape a rappelé que la Méditerranée, malheureusement, à la fois était devenue un cimetière, un énorme cimetière dans lequel des gens ont été engloutis par milliers actuellement. Donc, et en même temps, la Méditerranée, c'est le creuset de grandes civilisations et des grands monothéismes en même temps. Donc on a cet enjeu où le pape est persuadé que les peuples de Méditerranée peuvent créer un nouvel espace avec des grandes différences mutuelles, mais un espace qui fait que la Méditerranée, eh bien, elle a été le creuset de beaucoup de civilisations, de grandes civilisations, l'Égypte, la Grèce, la Mésopotamie, la Rome, et puis elle peut redevenir aussi l'espace d'une civilisation nouvelle, très articulée, avec des pays extrêmement différents. Donc vraiment, ça ne devrait pas être un cimetière. Maintenant, ça pose la question de savoir pourquoi des gens veulent absolument la traverser et ne pas rester chez eux. Et ça, le pape a aussi bien dit très clairement que la responsabilité revient à ce que nous faisons ou ne faisons pas pour que des gens restent chez eux.
Vous étiez certainement au JMJ l'été dernier ?
Oui.
Donc, c'est la deuxième
Alors,
fois en peu de temps que vous rencontrez.
Avec mon ancien diocèse de Viviers.
Ça fait donc deux rencontres avec le pape en peu de temps. Vous revenez comment de cette rencontre? Ressourcée? C'est un pèlerinage aussi. Il y a tout un élan, quand même, beaucoup de monde aussi qui s'est rendu à Marseille.
C'est ce que c'est surtout intéressant. Bon, le pape est un prétexte aussi à rassembler, mais justement, c'est le rassemblement. Autant au JMJ, 1,5 million de personnes, dont beaucoup, enfin, au moins 1 million de jeunes. À Marseille, un rassemblement au stade Vélodrome, puis tous les gens qui étaient dans les rues pour lui dire bonjour, l'acclamer. En fait, c'est intéressant parce que souvent, on est dans des petites communautés. Les jeunes en particulier sont dans des petites communautés. Les chrétiens eux-mêmes, on est 2-3% à se retrouver. Mais ce qui est important aussi, c'est que de temps en temps, et là, ça se produit, grâce au pape, un grand rassemblement fait que des gens puissent se dire ben, « on existe ». Et puis, on est heureux d'être ensemble. Donc, c'est aussi un bon prétexte à se retrouver. Et des gens qui, depuis longtemps, ne s'étaient pas retrouvés en France. Il faut remonter à très, très longtemps un grand rassemblement de chrétiens français, de catholiques français. Et là, ça a été l'occasion à Marseille de pouvoir le faire. D'ailleurs, le cardinal Aveline a bien rappelé que Marseille était en France. Et donc, on avait là aussi, un peu toute la France était venue pour acclamer et se retrouver. Et puis tous ceux qui ont regardé la télévision, bien sûr.
Alors après Marseille, il y a eu un petit détour par Paris, puisque vous aviez rendez-vous à la conférence des évêques de France, et puis le retour dans le diocèse d'Albi avec beaucoup de rencontres encore. Hein. Vous remplissez votre agenda depuis votre arrivée.
Oui, tout à fait. J'avais l'impression parfois, depuis 10 jours, d'avoir été là depuis longtemps. Donc ça fait le temps passe vite, mais c'est passionnant. Je découvre une église vivante, des gens qui en veulent, qui font leur chemin. Et donc, petit à petit, ben, je suis initié. C'est un vrai chemin initiatique. Je suis initié à la vie du diocèse, à ses enjeux. Et puis, quelques-uns expriment aussi des espérances, disant pour l'avenir, voilà, faudrait peut-être chercher dans telle ou telle direction. Donc, c'est pour l'instant, c'est une période très passionnante pour moi, quoi.
Et alors, vous avez annoncé hein, un tour des paroisses pour rencontrer les curés, les prêtres. Et là, on a beaucoup de retours aussi à la radio. Votre agenda est rempli, je crois, jusqu'au printemps et même au-delà.
Oui, alors bon, le but, c'est pas d'empiler non plus l'agenda à tout prix. Non, ce qui est important, c'est pour moi, les prêtres, c'est le premier cercle. Vous savez, pour un évêque, les prêtres, c'est les premiers collaborateurs. On partage le même sacerdoce, on dit la même messe. Et en même temps, la présence de l'évêque, c'est aussi pour moi, auprès des prêtres, un encouragement et un soutien. Donc, il faut que je les connaisse. Ils étaient là avant moi, ils seront sûrement là après moi, pour la plupart. Mais donc, de pouvoir rentrer dans une histoire aussi. Parce que les prêtres sont des gens qui, 24 heures sur 24, passent leur temps à se préoccuper de la vie chrétienne des gens qui leur sont confiés. Donc, de pouvoir vraiment être proche de qu'est-ce qu'on peut leur donner comme moyen, les écouter. Et puis leur chemin aussi. Moi, ce que je vais faire, c'est écouter leur chemin passé, leur histoire, parce que c'est autant de prêtres, autant d'histoires particulières. C'est pas un moule, en fait, les prêtres. Hein. C'est des hommes très particuliers, avec une histoire particulière. Et en même temps, c'est eux qui ont fait l'histoire du diocèse, quand on fait la somme de tout ça. Et donc, de pouvoir moi-même rentrer dans cette histoire, et puis ensuite, maintenant, de pouvoir la faire avec eux, cette histoire, puisque je suis leur père, leur ami et leur frère, dit le programme de ce qu'on demande à un évêque, mais il faut que pour moi devienne une réalité. Être père, frère et ami, ça se construit, et donc c'est ce que je vais chercher à faire.
Alors il y aura une autre rencontre, on aura l'occasion d'en reparler, puisque vous allez participer à la journée ou même au week-end de formation des équipes d'animation pastorale. C'est un projet qui a été lancé l'an dernier, où toutes les équipes ont suivi une année de formation, et là c'est un grand temps aussi pour lancer finalement les projets.
On a réfléchi sur le synode ici, dans ce diocèse. Et là, c'est une application concrète du synode. Le synode, ça veut dire marcher ensemble. Donc marcher ensemble, ça veut dire, pour l'Église, c'est pas tout le monde de manière uniforme. Et donc avec les équipes d'animation pastorale, c'est une des instances qui permettent à l'Église d'avancer. Donc équipe d'animation pastorale. Donc le titre même veut bien dire ce que ça veut dire. Alors, c'est pas des équipes de réanimation pastorale, hein. C'est bien d'animation pastorale. Donc, c'est-à-dire quelle est leur part qui permet aux chrétiens, eux, de devenir chrétiens et de pouvoir continuer à avancer sur le chemin de l'Église et de la vie évangélique. Donc, c'est une part très particulière de chrétiens liés aux prêtres qui font avancer et qui animent pastoralement, qui donnent une âme à la communauté. Donc, je vais participer à ça, puis voir comment ça évolue, quoi.
Monseigneur Balsa, merci beaucoup. Juste avant, vous allez vivre un week-end chargé aussi, puisque c'est le congrès mission à Toulouse.
Voilà, ben on verra bien. Donc, ce qui est intéressant là aussi, c'est le fait que c'est un peu la foire générale, au bon sens du terme. Autrefois, il y avait des foires agricoles, peut-être encore ici. Il y avait la foire de Marseille, il y a des foires...
La foire de Réalmont, la foire agricole.
Ben voilà, alors oui. Il faudrait que je la découvre. Le concours Lépine à la foire de Paris. Donc c'est un peu tout ça. C'est une espèce de pêle-mêle de gens qui essayent des choses en France. Alors, vous avez tout et son contraire. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que ça foisonne et ça fait une église vivante, ça aussi.
Monseigneur Balsa, merci beaucoup, bonne fin de semaine.
Merci.
Rencontre avec nos évêques,